Allons voir comment Mardoché rentre en lice et considère ce décret. Mardoché a appris ça. Il a vu et lu le décret qui était affiché à Suse. Waouh! Les autres peuples juifs aussi ont vu. Ils étaient dans la consternation. Mardoché se lève. La parole dit qu'il déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. C'était la façon des Juifs à ce moment d'entrer dans un processus de lamentation devant l'Éternel. Ils manifestent là comme ça, devant Dieu, son désarroi. Quand on s'enveloppe d'un sac. Généralement, les jeunes, quand on jeûnait pour des causes, la parole de Dieu nous dit, on prend un sac au lieu des vêtements, c'est-à-dire on ôte ses vêtements, on déchire ses vêtements normaux, on se met dans un sac en signe de deuil, en signe de souffrance, et on se couvre de cendres. Et l'expression du sac et de la cendre dans la parole de Dieu veut signifier, c'est-à-dire ça caractérise une situation désespérée. Ça caractérise une situation contre laquelle on ne peut rien. C'est-à-dire, il arrive une situation qui dépasse mes forces. Il arrive une situation contre laquelle je ne peux rien. Père, je suis devant toi. Fais quelque chose. L'attitude de Mardoché, c'était ça. Puis il alla au milieu de la ville et il se passe comme ça et il pousse avec force des cris amers. Quand on dit que tu pousses des cris amers, ce sont des cris de plainte. Ce sont des cris de cœur contrit. Ce sont des cris de malaise. Le peuple juif entier est entré dans cette situation de se mettre comme ça au vu de tous devant leur père. Pour dire, Père, si tu ne fais rien, on est mort. Père, je crie de cette injustice. Je crie de cette situation. Oh, est-ce qu'il y a des Mardochés dans la salle? Est-ce qu'il y a des Mardochés parmi nous pour cette situation du pays? Je crois, moi, profondément, que dans les églises, dans les assemblées, il y a de véritables Mardochés qui revêtent le sac et la cendre et qui poussent de véritables cris amers à l'Éternel pour cette situation. Je crois profondément. Mais est-ce que ça suffit? Ça influence, oui. Mais il faut une suite. La parole de Dieu dit qu'il se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Quand tu portais des quenilles, quand tu étais sale, tu ne pouvais pas traverser. Donc Mardoché, même qui travaillait là-bas, ne pouvait pas entrer dans l'état où il était. Il a dû rester dans la cour. Le peuple était dans une grande désolation. Notez ces mots, grande désolation. Ça va vous aider dans votre jeûne. Ils étaient dans une grande désolation. Parmi les Juifs, ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient. Et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre, nous dit la parole. Les gens sont allés dire à Esther, il y a dans la cour, vous savez, le monsieur qui est souvent là aux portes, Mardoché, il est là avec les sacs de cendre et tout, il crie, machin et tout. Esther, qui était dans ses appartements, qui n'était au courant de rien, se dit, mais elle appelle son eunuque et dit, mais va lui demander, c'est quoi le problème? Pourquoi il se met dans de tels états? Et c'est comme ça que Mardoché a donné les détails de toute la situation. Il a informé dans le détail Esther. Esther lui avait envoyé les habits pour qu'il soit propre quand même et tout. Il a dit, je ne mets pas ces habits-là. Je suis dans un état de désolation. Et pendant qu'il a fini, il a envoyé la personne qui était venue commissionner pour lui dire, dis à Esther d'agir pour le compte du peuple. Dis-lui d'aller voir le roi et de demander sa grâce pour nos vies. La parole de Dieu dit Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendit chez le roi pour lui demander grâce et implorer en faveur de son peuple. Esther a fait comprendre, lui a fait dire que c'est difficile d'aller chez le roi. Il y a une roi qui interdit. Quand le roi ne t'a pas appelé, tu ne peux pas aller. Donc ça va être difficile pour elle d'approcher le roi. Et voilà ce que lui répond Mardoché. Mais le Saint-Esprit m'a dit que c'est des paroles prophétiques. La bouche de Mardoché a parlé. L'Éternel a parlé par la bouche de Mardoché à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Et il continue, car, ça veut dire les choses sont liées. Si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et il poursuit. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Fini la prophétie. Si Esther a les oreilles pour entendre, qu'elle entende ce que l'Esprit lui dit. Mes frères, mes sœurs, si quelqu'un d'entre nous a des oreilles pour entendre, que nous saisissons les paroles prophétiques donné à Esther, parce que Dieu, s'il nous met le jeûne d'Esther à cœur, c'est parce qu'il nous dit ce qu'il nous dit là. Si nous nous taisons maintenant, si nous n'entrons pas en action maintenant, ne nous imaginons pas que nous allons échapper. Ce qui va arriver va nous toucher, toucher nos maisons, toucher nos familles. Et c'est pour des temps comme ça que des Esther ont été établis. Mes frères, mes sœurs, si nous sommes intercesseurs, si Dieu nous a attirés à lui, s'il nous a donné la grâce et le privilège de le connaître, de communier avec lui chaque jour, c'est pour des temps comme celui-ci. C'est pour que nous puissions monter à la brèche. Alléluia. C'est pour que nous puissions monter à la brèche, afin qu'il puisse faire ce qu'il a à faire. Voilà l'ordre que l'Éternel te donne. Amen. Que va donc faire Esther? Allons regarder du côté d'Esther maintenant. Esther a une information. On est venu lui donner, lui parler d'une situation. Première chose, elle a eu la préoccupation de ce qui arrivait à Mardoché. Elle n'est pas restée dans son palais à dire, oh, pff, ce qui se passe dehors là, est-ce que c'est mon problème? Moi je suis ici à l'abri, qui va venir me toucher? Non! Parce que Mardoché, c'est le représentant, l'expression de tout le peuple juif, au-delà d'être son oncle. Donc si nous sommes des Esther, mes frères et mes sœurs, nous devons nous préoccuper de ce qui peut arriver à nos frères et sœurs, à la population du Cameroun, aux populations des pays partout là où cette situation perdure. Si nous sommes des Esther, ça doit nous préoccuper. Amen. Elle a considéré et respecté et craint les lois et les ordonnances royales en vigueur dans le pays. Elle les a considérées. Elle n'est pas une rebelle. Elle n'est pas une irrévérencieuse, non. Elle était dans un contexte royal. Il y avait des lois royales qui demandaient qu'on n'aille pas voir le roi n'importe comment. Elle a d'abord évoqué ça. Ça veut dire qu'elle a le respect de ces institutions. Elle a le respect des règles qui sévissent là où elle vit. Comme nous, même en tant qu'Esther, nous sommes du royaume des cieux. Mais nous vivons dans le monde. Nous vivons. Et nous avons le respect des institutions. Nous avons le respect de nos lois. Alléluia. Nous respectons ça. Mais ça ne nous empêche pas, en tant que citoyens du royaume, d'agir sur le plan spirituel. Comme à son habitude, Esther a bonne écoute et elle est obéissante. Ça veut dire qu'elle a émis son point de vue et Mardoché lui a donné le sien. Elle a écouté elle a obéi. Elle a considéré les arguments de Mardoché et elle a pris conscience de son appel et de la mission qui lui était confiée. Parce que c'est ça que l'Éternel lui rappelait. C'est ça que la voix prophétique lui rappelait. Rappelait à Esther les raisons véritables pour lesquelles elle avait été choisie, élue pour être dans la maison du roi. Dieu savait que cette situation allait arriver et a anticipé en disposant, en enlevant Vashti pour mettre Esther. Oui. C'est à ce moment-là que Esther a pris conscience de la dimension de son appel spirituel. Jusqu'à présent, elle faisait son... Elle conduisait sa mission terrestre. Elle était reine et elle faisait ce qu'une reine doit faire. On vient lui rappeler qu'au-delà de sa position de reine, elle a une mission spirituelle à mener. Et là, elle a compris. Elle a une mission spirituelle qui lui est confiée. Et qu'est-ce qu'elle a fait quand elle a compris ça? Elle a recherché le soutien et la collaboration. Mes frères, mes sœurs, moi je vous dis, ce jeûne d'Esther, je vais le faire. Parce que je l'ai reçu. J'en ai reçu l'ordre. Mais dans la mission qui est la mienne, dans le ministère qui est le mien, je vous ai dit que j'avais en moi de le faire même toute seule. Et dans nos prières matinales, nous avons partagé avec les membres du réseau Extra International pour lesquels nous créons, nous prions. Et elles ont reçu aussi cela. Et même jusque-là, ça devait rester peut-être entre quelques personnes. Mais cette nuit, j'ai reçu. Parce que j'ai travaillé dessus, j'ai reçu d'en faire un message audio. Afin de le partager sur le site. Et afin que partout où les gens sont appelés au jeûne d'Esther, qu'ils puissent avoir le contexte et le contenu, la révélation nécessaire pour faire un jeûne d'Esther conforme à la parole de Dieu et conforme à la situation que eux vivent. Alléluia. Donc, ce qui amène que, au-delà de moi, je recherche le soutien et je recherche la collaboration. De venir et l'élargir ce champ, c'est de pouvoir rattacher le plus de personnes à cet accord de prière. Alléluia. C'est ce que Esther a fait. Esther a dit, en réponse à Mardoché, en réponse à la voix prophétique qu'elle a reçue, elle a envoyé dire à Mardoché. Esther envoyait dire à Mardoché deux points. Va, ce n'est plus, elle parle à son oncle, dont un aîné. Mais maintenant, elle ne parle plus en tant que la petite fille qui parle à son oncle. Elle parle en tant que envoyée de Dieu. Elle parle en tant que servante de l'Éternel qui a reçu une mission. Elle porte la charge d'une mission salvatrice pour le peuple. Donc c'est en autorité qu'elle s'adresse à Mardoché maintenant. Donc, recevant l'appel prophétique, recevant la voix prophétique et acceptant de s'engager, ça l'a revêtu d'une autorité. Or, que quelqu'un dise autorité. Tous ceux qui vont recevoir cet appel prophétique et qui vont s'engager dans ce jeûne d'Esther, alléluia, qu'ils soient certains qu'ils reçoivent en prime un revêtement spécifique et une grâce particulière pour exécuter cette mission. Alléluia. Et c'est en autorité que vous vous positionnerez dans le jeûne que vous allez prendre. Elle dit à Mardoché, va, rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suse. Elle savait l'impact que Mardoché avait sur le peuple juif en entier. Et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Pendant que vous serez en train de faire ça, moi aussi, je jeûnerai, de même que mes servantes. À la suite de ça, parce que la parole dit, puis Puis, pendant que je jeûnerai, j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Voilà l'ordre qui a été donné. Voilà l'engagement d'Esther. Sans considération d'elle-même. Sans considération de ce qui pouvait lui arriver. Alléluia. Elle entra chez le roi. Advienne que pourra. Je porte cette mission et je vais en mission. Alléluia. Que ce soit notre lot, notre charge. Et je continue avec Esther. Tout le monde est parti. Mardoché et le peuple sont mis en jeûne. Esther elle-même est venue en jeûne. Le jeûne doit durer 3 jours, puisqu'elle a dit pendant 3 jours, sans manger ni boire. Et elle est allée rentrer dans son palais et elle s'est mise en jeûne. Donc voilà le premier jour du jeûne. Deuxième jour du jeûne. Puisque la parole dit, au verset 6, le troisième jour du jeûne. Alléluia. Ça veut dire que 2 jours, elle les a passés dans ses appartements en jeûne. Nous verrons quoi faire pendant ces 2 jours. Le troisième jour, pendant qu'on est toujours en jeûne, on contre-attaque. Amen. Esther s'est levée. Esther s'est levée. Elle a fait sa toilette. Elle s'est faite belle pour son roi. Elle s'est mis ses vêtements royaux. Et elle est partie vers la cour du roi. Elle est allée à la rencontre du roi. Elle a trouvé grâce aux yeux du roi qui l'a reçu. Et elle a usé de douceur, de stratégie pour commencer à mettre l'objet de son jeûne et de sa présence devant le roi. La parole dit, lorsque le roi vit Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Parce que c'est quand tu es debout dans la cour, si tu n'es pas invité, c'est là où les gardes même se saisissent de toi. Mais elle trouvait grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther son sceptre d'or qu'il tenait à la main. Quand le roi te tend son sceptre d'or, c'est qu'il partage. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Et le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand ce serait même la moitié du royaume, elle te sera donnée. » Wow! Je crois que la réponse là a surpris Esther elle-même. Je crois que ce jour-là, elle n'était pas prête. Et pour cause, elle n'avait pas fini le jeûne. Elle n'était pas prête. Et je crois qu'elle voulait seulement aller ouvrir les portes. C'est allé trop vite. Parce que ce n'est pas ce jour-là qu'elle a demandé quelque chose. Dis, même la moitié du royaume, tu me le donnes. Waouh, waouh, waouh. Esther a répondu, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Douceur, stratégie. Que le Seigneur nous aide. Ce fut plaisir au roi. Le roi est d'abord venu avec Aman le premier jour. Festoyé. Le roi a beau lui demander, mais Esther, ma reine, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Esther trouvait toujours le moyen de dire, oh, mon roi, non, mange, bois, vraiment. Ça me fait plaisir que tu sois là. Et elle a dit, si le roi le trouve bon, est-ce que le roi peut encore venir demain? Vraiment, je vais encore mieux me préparer. Est-ce que le roi peut encore venir demain avec Aman? Là, vraiment, ça sera un autre niveau. Waouh! Et le roi dit, oui, bien sûr. Esther, nous allons venir. À demain. Amen. Et là, Esther finissait le troisième jour de son jeûne. La boucle était bouclée. Alléluia. Et les choses spirituelles devaient commencer à se mettre en place. Les anges de l'Éternel devaient commencer à se mettre en place, en branle, pour le processus divin. Parce que regardez ce qui se passe. Il s'avère, nous allons retourner chez Aman et Mardoché. Il s'avère que cette nuit-là, le roi La parole dit que le roi ne puisse pas dormir. Qui a ôté le sommeil au roi? Il ne pouvait pas tellement dormir. Qui a troublé le cœur du roi? Au point où pour trouver le sommeil, il a appelé les eunuques de porte pour qu'on lui amène le livre des chroniques, c'est-à-dire, on dirait, les archives du palais dans lequel on écrit tout ce qui se passe au palais. Il a dit, amenez-moi le livre des chroniques et lisez-moi ça que j'entends. Peut-être ça peut me donner sommeil. Oh, comment Dieu fait les choses, mes frères et mes sœurs. Vous ne pouvez pas savoir, quand nous nous engageons avec l'Éternel, ce qui se passe dans le monde spirituel. Disposons-nous seulement. Laissons l'Éternel se pourvoir lui-même. Laissons le ministère des anges se mettre en action. Laissons la main de l'Éternel, alléluia, agir. Laissons l'Esprit de Dieu se mouvoir, alléluia. Nous n'avons qu'à être en jeûne. Oh. Un jeûne dont nous connaissons les tenants et les aboutissants. Un jeûne dont nous avons la révélation. Un jeûne qui nous est commandé. Qui nous est ordonné par notre Seigneur. En un temps. Pas pour nous-mêmes, mais pour les multitudes. Alléluia. Quand on lui a amené le livre des chroniques, on lui a lu le livre des chroniques, et on est tombé sur un passage. On est tombé sur le passage où un certain Mardoché, qui s'asseyait au port du roi, a fait déjouer un complot qui a sauvé la vie au roi. Quand on a lu ça, le roi a dit, ok, j'avais même déjà oublié cette histoire-là. Qui est devenu l'homme qui a fait ça? Est-ce qu'on a même fait quelque chose pour lui? Ils ont dit, non, nous on voit ici qu'on a écrit qu'on a fait quelque chose pour lui. Hé! Hey! Non, ça doit être réparé. Oh mon Dieu! Que quelqu'un dise réparation! Que quelqu'un dise réparation des situations! Que quelqu'un dise rappel au souvenir! Parce que les anges sont allés tirer des situations oubliées, des situations d'injustice, pour rappeler au roi qu'il y a telle situation qui n'a pas été gérée comme il se doit. 3 jours du jeûne étaient passés. Pendant que les anges de l'Éternel agissent, mon frère et ma soeur, tu n'es pas oublié. Parce que on s'est souvenu d'une épreuve, on s'est souvenu d'une action que Mardoché avait menée. Ça n'a rien à voir avec Esther. Ça n'a même rien à voir avec la royauté d'Esther. Ça a à voir avec Mardoché et de sa position à la porte du roi. Vous serez rappelé au souvenir de Dieu. Vous serez rappelé au souvenir. Vos actes, ce que vous avez fait jusqu'à présent, sera ramené au souvenir. Cela vous sera imputé à justice au nom puissant de Jésus. Vous rentrerez dans vos droits. Vous rentrerez dans vos privilèges personnels, dans vos vies. Alléluia. Parce que Dieu est un Dieu juste et équitable. Il n'oublie personne. Et il ne doit rien à personne. Alléluia. Et il y aura réparation. Le lendemain, quand le roi s'est levé, Aman est parti de chez lui. Souvenez-vous que Aman avait pris la décision de finir avec Mardoché. Et il a dressé le pieu. Le lendemain, il savait qu'il allait encore dîner chez la reine Esther avec le roi. Et il s'était dit, dans cette atmosphère de bien-être, je vais demander au roi la permission de tuer Mardoché. Quand le roi se lève le matin, il n'a qu'une idée en tête: honorer Mardoché pour ce qu'il avait fait. Donc, quand il arrive, il dit, quel haut dignitaire j'ai là, qui est dans ma cour? On dit, Aman est dans la cour. Oh, faites venir Aman, c'est même lui qu'il fallait. Aman, qu'est-ce qu'on peut faire à quelqu'un qui a posé un acte glorieux pour la nation? Qu'est-ce qu'on peut faire à quelqu'un qui a été honorable pour la nation? Et comme tout homme égoïste, Aman, il a encore dit, oh, qu'est-ce que le roi doit encore me donner? Oui, quand les gens en parlent, ils cachent toujours ce que les autres font. Ils veulent toujours se mettre en bon positionnement devant l'autorité suprême pour grappiller tous les privilèges, même quand c'est pas eux qui ont fait. C'est-à-dire, il y a des petits, même dans les ministères, dans les partis, dans la population, dans les entreprises, qui conçoivent et font quelque chose. Mais non, eux, ça n'accapare et ils vont présenter ça comme si c'était eux. Pour eux, tout seuls, grappiller les privilèges et laisser les autres en plan. C'est toujours ça, c'est pareil. Donc, Aman pense encore que le roi va encore lui donner des choses. Et il explique comment on honore quelqu'un qui fait du bien à la nation. Il n'a rien omis. Peut-être même qu'il a ajouté d'autres choses, peu importe, parce qu'il croyait que c'était pour lui. Il a détaillé. Et le roi lui a dit, oh, c'est très bien ça. Comme c'est quelqu'un de haute dignité qui doit le faire, voilà la mission dont je te charge ce matin. Tu te lèves et tout ce que tu m'as dit là, tu vas faire ça sur Mardoché. Il paraît qu'il est assis là-bas à la porte. Lui, il a déjoué un complot qui en voulait à ma vie. Va faire cela à Mardoché. Aman ne pouvait qu'obtempérer. C'est le roi. Il s'est levé et à contre-cœur, mort dans l'âme, il est allé prendre Mardoché et il a fait tout ça. Et on l'a revêtu du manteau royal, on lui a mis une couronne, on lui a porté la bague du roi, et on l'a mis sur le cheval royal, on l'a promené dans toute la ville de Suse, en disant, voilà un homme que le roi honore, voilà un homme honoré par le roi, voilà, et c'est lui qui criait, etc. Et ça élevait Mardoché en dignité. La condition de Mardoché était en train de changer. Il était passé de sous-fifre à la porte, à un au rang de dignitaire. Sa condition n'allait plus jamais être la même. Alléluia. Voilà quelqu'un qui est sorti des sacs de cendres. On lui a ôté ses sacs de cendres pour lui revêtir des vêtements royaux et l'élever en dignité. Après ces 3 jours de jeûne en collaboration avec Esther. Alléluia. Nous ne sommes même pas encore en train de toucher le but du jeûne, que déjà les retombées sont là. Oh, que quelqu'un dit ça, c'est mon lot. Alléluia. Je serai rappelé au souvenir. Il y aura réparation dans ma vie. Alléluia. Gloire à Dieu.